Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui au micro de Mémoire vive l'écrivain Yannick Hennel. Yannick Hennel qui vient nous parler de son roman paru à la rentrée chez Gallimard dans la collection L'Infini. Le titre de ce roman, Jan Karski. Jan Karski, c'est un nom propre. Jan Karski, résistant polonais, né en 1914, mort en 2000 à Washington. Jan Karski, l'homme qui a voulu arrêter la Shoah. Yannick Hennel, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les circonstances de votre rencontre avec Jan Karski?
Oh, c'est très simple, c'est envoyé en Shoah de Claude Lanzmann, il y a une dizaine d'années. Et parmi tous les témoins, celui qui, pour une raison qui m'était au départ mystérieuse, m'a parlé le plus, c'était lui. Il parlait du ghetto de Varsovie et il racontait son entrée par deux fois dans le ghetto en 1942. C'est l'un des premiers témoins oculaires, comme on dit, du processus d'extermination des Juifs d'Europe.
Alors, ces raisons mystérieuses au départ, est-ce qu'elles se sont éclaircies par la suite?
Oui, je dois dire que, enfin, si tant est qu'on puisse éclaircir un mystère de cette sorte, en écrivant le livre, enfin, pendant trois années, je me suis rendu compte que c'était le caractère, je dirais, spirituel qui sous-tendait la présence, le témoignage de Karski. Et présence spirituelle qu'il a résumé lui-même à la fin de sa vie en faisant une déclaration à Washington et en disant « Je suis un catholique juif ». Voilà, c'était cet étrange mystère, je dirais, presque théologique, être un catholique juif, ni l'un ni l'autre, mais les deux, ou dans la tension entre les deux qui m'avait animé. Et au fond, le livre parle de ça, de cette possibilité-là.
Et avec un processus presque d'identification pour vous, Yannick Hennel, envers la figure de Jan Karski?
Mais au fond, je ne sais pas comment nommer ça. C'est vrai que comment témoigner pour un témoin, c'est le fameux vers de Paul Celan. Je me disais, voilà, on a beaucoup de documents, enfin beaucoup, on a de la documentation sur quelqu'un comme Jan Karski. Karski a parlé, Karski a écrit. Et au bout du compte, je me disais que je n'avais pas le droit d'en rajouter si je n'avais pas d'abord, dans ce livre, témoigné pour ce qu'il avait dit, vécu et écrit. Donc effectivement, peu à peu, puisque le livre est composé de trois parties, dans la troisième partie, je me permets seulement, au bout de 150 pages, d'essayer de proposer une vision, pour le coup, d'intuition, enfin, de fiction, sur les moments de sa vie qui ne sont pas documentés, son silence, son deuil, voilà. Je voulais savoir s'il était possible d'écrire, de trouver des mots pour dire le deuil de quelqu'un d'autre.
Alors Yannick Hennel, comment l'écrivain que vous êtes s'est saisi de cette figure de Jan Karski? Ce livre est un roman, vous insistez là-dessus, ce n'est pas une biographie. Alors comment l'écrivain se saisit d'un personnage comme lui?
Ben c'est plutôt lui qui m'a saisi, parce que je dois dire que j'étais dans l'incapacité totale au départ d'écrire sur Karski. Le sujet était tellement important, tellement grave. Tout ça se passait dans une telle dimension d'effervescence, comme dit le Zohar, que j'étais complètement paralysé. Et je pense que c'est cette paralysie qui m'a sauvé, qui m'a amené vers une nécessité du scrupule. Donc j'ai tenté d'écrire presque en tremblant, et au bout du compte, des choix se sont opérés, des choix esthétiques, effectivement, que font tous les écrivains. Et mon choix, c'était de ne pas mélanger fiction et documentaire, mais de mettre les deux, de les juxtaposer, de donner à lire d'abord du documentaire, comme on dit au cinéma, puis ensuite, quand le documentaire ne peut plus aller plus loin, puisqu'il s'achève, à partir de 1945, dans la vie de Karski, qui est une vie silencieuse, eh bien là, je suis passé résolument à la fiction, mais j'ai choisi de le dire et de l'assumer en quelque sorte.
Donc ce livre est composé en trois parties, trois chapitres, en forme de progression.
Oui, c'est vrai qu'il y a une progression, il y a une répétition, il y a une forme de litanie, presque de... Au fond, pour moi, c'était de l'ordre de la répétition de la prière, au fond, pour en arriver peut-être à ce que quelque chose dans la vie et dans le deuil illimité de Jan Karski pour les Juifs d'Europe s'ouvre ou s'entr'ouvre. Donc effectivement, c'était comme si j'avais raconté trois fois cette histoire, avec des variations.
Donc le point de départ, c'est donc son témoignage dans le film Shoah de, de Claude Lanzmann.
Effectivement, la première partie du livre, c'est ce qu'on ressent quand on est spectateur des 40 minutes de l'intervention de Ian Karski dans Shoah, quand il parle à Lanzmann et que pour la première fois depuis 35 ans, il re-raconte ce qu'il a vu en 1942 dans le ghetto. Et j'ai respecté sa parole, sa voix, ses gestes, et j'ai retranscrit ces 40 minutes, ça fait 15 pages. Dans un second temps, je suis retourné en arrière, parce que je me suis interrogé sur qui était Karski, finalement, qui est cet homme qui parle à Lanzmann, et je me suis emparé du livre, ou plutôt là aussi c'est le livre que Karski a écrit qui s'est emparé de moi, c'est-à-dire qu'en 1944, Karski a essayé de rendre compte de son expérience aux États-Unis pour alerter la conscience du monde, et il a écrit un livre qui s'arrête en 1944, ses mémoires de guerre. Donc je suis de manière, alors là je dois dire très, pour le coup, blanchotienne, si je puis dire. Je me suis entretenu infiniment avec ce livre. Enfin, ce livre s'est réécrit sous ma plume. Enfin, c'était très étrange, au fond. Voilà, j'ai fait une réécriture de ce livre.
Donc, Ian Karski, officier polonais, entré dans la résistance dès les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale. Il échappe au massacre de Katyn, de justesse, au moment où les officiers polonais sont arrêtés par l'armée rouge. Il rentre dans la résistance, il devient courrier pour la résistance polonaise. Il doit rejoindre, il le fera à plusieurs reprises, le gouvernement polonais qui est en exil à Londres. Il est arrêté par la Gestapo, il réussit à s'enfuir. Et on arrive donc à l'été 42, et à ce qui constitue pour lui, donc à l'époque, une surprise, à l'occasion d'une mission vers Londres, à partir de Varsovie. Donc on lui dit, juste avant qu'il parte, il faut que tu rencontres deux hommes.
Oui. C'est dans le cadre, effectivement, de sa mission. Non seulement c'est une surprise, comme vous dites justement, mais c'est une métamorphose, au fond. Je pense que Karski n'en est jamais revenu, à tous les sens du terme. C'est-à-dire que ce jeune patriote de 26 ans, ce jeune patriote très catholique, polonais, qui pense à ce moment-là, avec justesse, que la Pologne est le pays le plus abandonné du monde, pris en tenaille par les nazis, les soviétiques, abandonné des puissances occidentales, il se rend compte qu'un autre abandon a lieu, à l'insu de tous, et que cet abandon est sans comparaison, que l'abandon des Juifs d'Europe qu'il va découvrir rend maudite à ses yeux l'abandon de la Pologne elle-même. Et à partir de là, effectivement, cette métamorphose, qui est une métamorphose dans sa mission, une métamorphose politique, mais aussi spirituelle, va l'amener à répéter le message du ghetto de Varsovie, des deux hommes du ghetto de Varsovie, partout pendant 2 ans.
Donc ces deux hommes vont lui donner un message à transmettre donc aux autorités polonaises en exil à Londres, et puis vont lui proposer de venir voir de ses yeux ce qui se passe dans le ghetto de Varsovie. Il rentre avec eux par un souterrain dans le ghetto, et là on a l'impression, à vous lire Yannick Enel, que c'est presque un passage aux enfers.
Mais je reprends la métaphore de Karski, parle du Styx, effectivement. Je pense qu'en 1942, et peut-être même aujourd'hui, on n'a pas de mots pour dire certaines choses relatives à l'extermination, et donc il emploie des métaphores presque convenues mais qui sont terribles: l'enfer, l'inhumanité, le Styx. Et de fait, avec les deux hommes du ghetto, enfin le leader du Bund et le leader sioniste, ils entrent effectivement par un souterrain dans le ghetto. Et là, eh bien, ce qu'ils voient, ils le racontent très précisément à Claude Lanzmann en 85, et il ne cessera après de le raconter aux États-Unis et en Israël. Il voit quelque chose qui pour lui est de l'ordre de, au départ, de l'intransmissible. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il y a de très beau, et je pense que c'est la question même de chaque témoin, c'est qu'il il pense, Karski, qu'il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il a vu, et donc il va devoir inventer un langage. C'est aussi pour ça que, en tant qu'écrivain, si je puis dire, Karski m'avait beaucoup touché au départ en le voyant dans Shoah, c'est qu'on sent qu'il est obligé de rénover, si je puis dire, chaque mot. Quand Karski dit « on était en enfer », on sent qu'il y a une acception nouvelle du mot. Enfin, il a son scrupule est immense, au fond. Donc voilà, il voit l'indescriptible. Il voit des vivants dont il se rend compte qu'ils sont en même temps morts, ou des morts qui sont vivants. Ce qu'il dit est tout à fait vertigineux humainement et métaphysiquement, parce que, comme vous le savez, quand il raconte ça à Lanzmann, il ne parvient plus à supporter ce qu'il dit, et parce qu'il parle au présent. Et donc, en parlant, en renommant ce qu'il n'arrive pas à nommer, il le revit. Et à un moment qui est tout à fait époustouflant dans le film, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, au fond, c'est cette place vide qu'on voit à l'écran, c'est qu'il sort du champ. Il ne peut plus supporter de revivre ce qu'il transmet à Lanzmann. Et il pleure, il sort du champ, et là Lanzmann, et c'est très très beau, Lanzmann est surpris. Ça va tellement vite que Lanzmann continue à filmer la place vide. Et cette place vide est aussi éloquente que Karski lui-même.
Alors Jan Karski, suite à cette visite du ghetto de Varsovie à l'été 42, va continuer sa mission de courrier vers les autorités polonaises en exil à Londres, et puis il va tenter donc d'alerter la conscience du monde sur ce qui se passe à l'époque sur le territoire polonais, l'extermination des Juifs d'Europe. Et on est confronté là à la tragédie de Jan Karski, c'est que cette mission sera un échec. Et il va devoir vivre avec ce constat, ce terrible constat, que sur le sol européen, l'extermination se poursuit, malgré l'alerte qu'il tente de porter au-delà de l'Atlantique et de la Manche. Et il est confronté donc à l'extermination sur le sol européen et à l'abandon dans les pays alliés.
Effectivement, il est l'un des premiers, pas le dernier, il est l'un des premiers à être non seulement le témoin de l'extermination des Juifs d'Europe, mais surtout le témoin d'une inaction, du moins en 42-43 et jusqu'au début 44, une inaction des alliés concernant le sort des Juifs. Ce qui m'a beaucoup intéressé chez Karski, outre sa noblesse d'esprit, c'est le fait que il est précisément témoin et acteur d'un moment clé de la constitution de ce qu'on va appeler l'après-guerre, c'est-à-dire du partage des responsabilités. Et Karski, comme d'autres, est quelqu'un qui a vu, qui a vécu, qui a fait l'expérience de cette passivité, qui a enduré cette passivité, et qui, en un sens, a pu observer le fait que cette passivité, à un certain point, que je laisse interrogatif au fond, cette passivité relève d'une forme de complicité. Karski,
ce n'est pas une simple passivité, Yannick Enel, ouais. C'est-à-dire qu'il a porté la parole, ça a été un combat, et sa mission de résistance était de porter cette parole. Il a enchaîné des rencontres, ouais. Des conférences avec des intellectuels, avec des hommes politiques, il n'a pas arrêté dans les mois qui ont suivi l'été 42.
Il n'a fait que ça, parler du matin au soir, de 8h du matin jusqu'à minuit, de répéter la parole du ghetto de Varsovie, en Grande-Bretagne à partir de fin 42, puis aux États-Unis à partir de 43. Et c'est seulement en 44, il le rappelle lui-même, c'est seulement en mars 1944, donc vous voyez comme le temps a passé et ce temps se mesure en mort à ce moment-là, c'est seulement en mars 1944 que le président Roosevelt fait un premier discours en faveur des Juifs d'Europe, un avertissement lancé aux nazis. Et donc Karski, effectivement, durant...
Alors qu'il avait rencontré donc le président Roosevelt à l'été 43.
On dit depuis, les historiens disent depuis, que l'entrevue entre Karski et Roosevelt est l'une des choses qui ont déterminé la création finalement d'un congrès juif, en fait. Ça a accéléré effectivement la prise de décision. Mais au fond, on peut dire, et beaucoup d'historiens, notamment anglo-saxons, le disent maintenant, on peut dire que pendant deux années, il n'y a pas de volonté politique des alliés pour sauver les Juifs d'Europe.
Et dans le message que les deux leaders juifs du ghetto ont fait passer par Jan Karski aux alliés, il y avait effectivement donc le témoignage de ce qui se passait dans le ghetto, mais il y avait aussi un message qui leur était directement adressé avec, entre entre guillemets, une forme de solution, de plan pour arrêter donc la Shoah.
Alors effectivement, elle n'émane pas cette solution ni de la résistance polonaise, ni de Karski, ni du gouvernement polonais, mais des deux leaders du ghetto de Varsovie eux-mêmes qui ont demandé à Karski de demander aux alliés de bombarder les voies ferrées en Allemagne, voies ferrées qui menaient à différents camps d'extermination, en Pologne, et également d'envoyer, c'est une mesure un peu désespérée, d'envoyer des tracts, enfin on voit à quel point c'était tout à fait désespéré, enfin, d'envoyer des tracts en Allemagne pour alerter la population allemande du fait que leurs dirigeants exterminaient les juifs. Karski a redit cette proposition aux Américains et toutes sortes d'autres sources d'informations leur étaient arrivées en même temps que l'information portée par Karski.
Alors, après-guerre, face donc au terrible constat de l'échec de sa mission, Jan Karski va choisir le silence après avoir beaucoup parlé. Et si on imagine que l'historien s'intéresse à la parole de Jan Karski, ce qui intéresse l'écrivain que vous êtes, Yannick Enel, c'est plutôt ce silence. C'est à la fois le silence quand Jan Karski finit par quitter le champ de la caméra de Claude Lanzmann dans le film Shoah, qu'il ne peut plus parler physiquement, et c'est aussi le silence qu'il s'impose à lui-même après-guerre, face donc à l'échec de sa mission.
Oui, c'est très très juste. Enfin, vous avez raison, les historiens s'intéressent à la parole, et les écrivains peut-être au silence. Et je dirais même à la dimension dépressive de ce silence. Moi, ce qui m'a intéressé dans la troisième partie de ce livre, et c'est pour ça que je fais un saut dans la fiction, mais c'est une fiction tout à fait...
Donc le troisième chapitre, c'est donc la partie fictionnelle de cet ouvrage, donc intitulé Jan Karski chez Gallimard, et c'est un long monologue que vous prêtez à Jan Karski à la fin de sa vie, sans retour à la ligne, sans paragraphe,
oui,
c'est un long monologue.
C'est vrai, oui.
D'un seul souffle.
Oui, là, je me suis lancé, au fond. C'est une hypothèse de fiction. Le lecteur a tous les éléments documentaires sur Karski entre les mains et il peut accepter ou repousser ma tentative de faire parler Karski. Qu'est-ce qui parle dans son silence? Et alors, j'ai pensé qu'à partir de 1945, quelqu'un comme Jan Karski était comme un prophète en colère, qu'au fond, comme on ne l'avait pas entendu... Pour lui, ce qu'on appelle le monde libre, ce qu'on a appelé la victoire, au fond, c'était tout à fait indécent, et qu'il n'était pas possible qu'un monde dans lequel l'extermination des Juifs d'Europe a eu lieu puisse se prétendre libre. J'ai imaginé que Jan Karski, toute sa vie, se répétait le message des deux Juifs du ghetto de Varsovie.
Toutes les nuits.
Toutes les nuits, exactement. J'ai imaginé une longue nuit blanche qu'est sa vie, j'ai imaginé une insomnie. Et dans les peu de renseignements que j'ai eus sur la dernière partie de sa vie, c'est un homme très pudique au fond, et c'est aussi un citoyen qui devient presque ordinaire, enfin, c'est un professeur aux États-Unis. Dans les quelques renseignements que j'ai eus, effectivement, se traçait la silhouette d'un homme qui ne vivait que pour ce deuil illimité en faveur des Juifs d'Europe. Il se sentait presque coupable de ce crime qui avait été commis en commun, comme dit Freud, au centre de l'Europe, alors même que lui est l'un des plus innocents, si je puis dire, au fond, par un scrupule infini, il est allé jusqu'à s'accuser de ne pas avoir réussi sa mission, alors même qu'on a fait barrage à sa mission.
Et donc, se répétant, nuit après nuit, la grande leçon de son expérience personnelle, refusant absolument l'image qu'on voulait dresser de lui, du héros qui avait voulu tenter d'arrêter l'Holocauste. La grande leçon de la trajectoire de Jan Karski, c'est que la Shoah n'est pas un crime contre l'humanité, mais c'est un crime commis par l'humanité.
Oui, c'est une parole dont j'imagine bien qu'elle est un peu risquée, mais j'ai imaginé que quelqu'un comme Jan Karski ne pouvait pas se satisfaire de cette formule « crime contre l'humanité ». Lui a vu certaines choses, a entendu certaines choses, a fait l'expérience d'une certaine surdité, et donc quelqu'un comme lui, d'ailleurs il a des déclarations en ce sens, a bien senti que l'humanité elle-même tout entière était... partie prenante et coupable, ne serait-ce que par sa passivité, et que la passivité, en l'occurrence, était criminelle.
Alors, Yannick Enel, on voit la portée de ce message, ce roman que vous signez chez Gallimard dans la collection L'Infini, Jan Karski est sorti à la rentrée. Vous avez eu l'occasion d'en parler à de nombreux lecteurs. Comment cet ouvrage est reçu ?
Il est reçu de diverses manières. Enfin, il y a un enthousiasme et une émotion qui me... qui me comble, je dois dire, parce que mon désir, c'était de faire entendre le nom de Jan Karski, d'où le fait que j'ai appelé ce livre Jan Karski. Pour moi, on a beaucoup parlé de répétition, la répétition du nom est de l'ordre de l'être, enfin, c'est presque ontologique, enfin, prononcer le nom de Jan Karski, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et donc voilà, j'ai l'impression que Karski, que Claude Lanzmann est allé sortir de son silence en 1985 et est encore un peu plus connu. Enfin, je l'ai amené modestement jusqu'au début du XXIe siècle. Donc cet acte de, je dirais, de résurrection, il est entendu. Ça j'en suis très heureux. Les réactions aussi, c'est concernant la Pologne. Au fond, beaucoup, du moins en France, ont une image très figée au fond de la Pologne qui se réduit à l'abomination de l'antisémitisme qui est tout à fait réel des Polonais. Et moi, j'ai voulu aussi, en même temps, en ne niant pas cet antisémitisme terrible, j'ai voulu aussi montrer qu'il y avait des gens en Pologne, individuellement, qui ont fait des choses extraordinaires, et comme Jan Karski, qui est devenu l'un des justes parmi les nations à Yad Vashem, et que qu'être Polonais dans les années 40 et en 42, c'est évidemment plus compliqué qu'on ne le croit aujourd'hui en France. Enfin, il y a quand même une bonne conscience dans l'idée qu'on se fait de la Pologne. Et voilà, je suis assez. Je vois que quelques nuances ont pu être apportées sur cette question.
Yannick Henel, une question personnelle. Comment sort-on de ce long voisinage de, j'imagine, plusieurs années de Jan Karski?
Écoutez, c'est une très bonne question parce que je n'en suis toujours pas sorti. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'en sortir. J'en sors en lisant beaucoup d'ouvrages de mystiques juifs, en lisant Martin Buber, en lisant le Zohar. J'en sors avec ce que Maurice Blanchot appelle le judaïsme de pensée. Donc je n'en sors pas et je crois que c'est très bien.
Yannick Henel, je vous remercie. Je renvoie donc tous nos auditeurs à cet ouvrage, ce roman, intitulé Jan Karski, paru chez Gallimard dans la collection L'Infini. C'était Mémoire vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de RCJ, www.radio-rcj.info, sur le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, www.fondationshoah.org, et enfin, avec toutes nos émissions en archive, sur le site mémoirevive au pluriel.net.